Je vous invite à le retrouver, ce texte de Romains, et donc ce sera le chapitre 12. On va s'intéresser au tout début du chapitre, tout début de ce chapitre, se poser la question comment comprendre la parole de Dieu aujourd'hui. Peut-être vous êtes familiarisé avec l'Épître aux Romains, c'est un texte que vous aimez, que vous parcourez souvent, et c'est une très bonne chose. Peut-être vous avez jamais eu l'occasion de le découvrir en profondeur. Et quand on se trouve devant un texte comme ça, on peut toujours se poser la question, mais pour qui il a été écrit? Par qui? Et pourquoi? Et quand? Et si nous lisons nos versets ce matin de Romains chapitre 12, versets 1 et 2, on lit ceci. Je vous exhorte donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. Je vous exhorte donc. Tout ça nous appelle à, bien sûr, à connaître un contexte. Et il y a longtemps qu'on s'est arrêté à chapitre 11. Alors je vous propose de faire un petit retour en arrière pour pouvoir répondre à ces questions du qui, du pourquoi et du comment. Je vais essayer de faire ça brièvement. Et pour ça, on va lire. Vous pouvez lire avec moi, j'ai mis les textes sur l'affichage, le début de l'Épître aux Romains. Paul, esclave de Jésus-Christ, apôtre par appel, mis à part pour la bonne nouvelle de Dieu. Cette bonne nouvelle, cet évangile, Dieu l'avait promise à ses prophètes dans les Saintes Écritures. Elle concerne son Fils, issu de la descendance de David selon la chair, institué fils de Dieu avec puissance selon l'esprit de sainteté, du fait de sa résurrection d'entre les morts. Jésus-Christ, notre Seigneur, c'est par lui que nous avons reçu la grâce et l'apostolat, afin de susciter pour son nom l'obéissance de la foi pour toutes les nations, nations dont vous faites partie, vous qui avez reçu l'appel de Jésus-Christ. À tous ceux qui, à Rome, sont bien-aimés de Dieu et saints par appel, grâce et paix à vous, de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Un petit peu plus loin au verset 16, l'objectif de Paul. Je n'ai pas honte de l'Évangile, elle est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du non-juif, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Un texte donc du premier siècle de notre ère, l'apôtre Paul qui écrit une lettre à l'église de Rome qu'il n'a jamais visitée, mais qu'il compte visiter, qui compte aller même au-delà jusqu'à l'Espagne, il explique ça, et il, quelque sorte, il prépare sa venue en exposant tout son enseignement, et tout cet enseignement de l'évangile de l'apôtre Paul, et maintenant, par le Saint-Esprit, à votre portée. C'est la parole de Dieu, inspirée par lui. Le juste vivra par la foi, le sujet de notre épître. Les textes continuent. avec Romains, des versets 18 au chapitre 3, 20, et là il expose pourquoi les hommes ont besoin d'être sauvés, parce que tous les hommes sont pécheurs. Tous les hommes sont pécheurs. Il conclut après sa démonstration, sommes-nous plus excellents que les autres? Nullement, nous avons déjà prouvé que tous, juifs et non-juifs et grecs, sont sous l'empire du péché. On connaît bien Astérix, on connaît bien la domination que faisait l'empire romain à ce moment-là. Et on pense toujours à ce petit village gaulois qui résiste en vain et toujours à l'envahisseur, et on se dit, c'est moi ce petit village gaulois, moi je suis capable de lutter contre l'empire du péché. Bon, c'est absolument faux. Tout le monde est sous l'empire du péché. Tout le monde est sous son joug. Tout le monde en est prisonnier. Et il fait la démonstration. Tous ceux qui vivent sans Dieu l'offensent et pêchent. Dans le premier chapitre et dans le deuxième chapitre, tous qui ont une morale ou une religion de surface offensent Dieu et pêchent. Et enfin, l'appartenance au peuple juif ne sauve pas si on pêche. Or, les juifs pêchent aussi. Tout le monde est prisonnier du péché. Tout le monde a besoin de délivrance et tout le monde a besoin d'être sauvé. Et c'est là ce qui est le plus important de réaliser pour se tourner vers Dieu. En effet, immédiatement après, il annonce la magnifique justification par la foi. Mais maintenant, sans la loi juive, la loi de Dieu, et de manifester la justice de Dieu à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes, la parole de Dieu, l'Ancien Testament, en justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ, pour tous ceux qui croient, il n'y a pas de distinction. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, déclarés justes, comme un cadeau, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes, la Bible, l'Ancienne Alliance, les Écritures. C'est lui, Jésus, que Dieu a destiné par son sang à être, pour ceux qui croiraient, une victime propitiatoire, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant, être déclaré juste à cause du sang de Jésus-Christ qui a été répandu et qui fait propitiation, qui par lui, Dieu, nous est favorable. Par lui, nous pouvons nous approcher de Dieu, purifié, justifié, non pas par nos miracles, par nos mérites, mais uniquement par Jésus-Christ, son sacrifice à la croix, la magnifique justification par la foi, qui va jusqu'au chapitre 5, verset 21. Heureux celui dont les transgressions est enlevée. Heureux ce dont le péché est pardonné. C'est l'expérience de David et aussi l'expérience de celui qui se convertit, celui qui place sa confiance en Jésus-Christ. Et quand justifié par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. La persévérance, l'épreuve, et ça y est, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. La vie ne devient pas un paradis pour autant. Il y a des difficultés, il y a de l'affliction, mais il y a une espérance qui ne trompe pas, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui a été donné tel un fleuve qui nous abreuve. De la croix, la grâce coule comme un fleuve, constamment. Venez en foule. Un plein pardon vous attend. Cette joie débordante qui est l'expérience de ceux qui voient leurs péchés pardonnés. Ensuite, il faut ce fameux empire du péché, il faut le quitter. C'est le chapitre 6 et 7. Est-ce qu'on va demeurer dans le péché afin que la grâce abonde? Non! Loin de là, dit l'apôtre. Nous qui sommes morts au péché, comment vivons-nous encore dans le péché? En fait, nous avons comme un acte de décès. Nous sommes morts au péché et nous sommes vivants par Jésus-Christ. Nous avons une nouvelle identité, une nouvelle nationalité, une nationalité céleste. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie et nous nous mettons en marche et nous quittons l'empire du péché. Nous avons une nouvelle identité et Christ est en nous, quitter l'empire du péché. Pour aller où ? Pour aller vers la gloire, conduit par l'Esprit, comme suivait dans le désert, le peuple suivait la nuée en chemin vers la terre promise. L'Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu, avec les promesses qui vont avec. Héritier de Dieu, co-héritier de Christ, rien que ça. Vers la gloire conduite par le Saint-Esprit. Et j'estime que les souffrances du moment présent ne sont pas dignes d'être comparées à la gloire qui va être révélée pour nous. Nous savons où nous allons. Le dernier chapitre de l'assurance du salut qui est le sommet, la pointe de l'épître, avec cette magnifique déclaration, j'en ai résumé que deux ici, vous connaissez sans doute ce passage, l'assurance que tous ceux qui nous arrivent contribuent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés, encore une fois, un appel conformément à son plan. Et avec l'apôtre, nous pouvons avoir l'assurance que rien ne nous séparera de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Et nous arrivons avec cette déclaration à la fin du chapitre 8. Romains chapitre 9 et 11, l'apôtre aborde un point, on pourrait qualifier de technique, la relation qu'il y a avec le peuple juif. Et cette question qu'on peut se poser, pourquoi Dieu m'aime moi? Pourquoi il m'a choisi? Et est-ce qu'un jour, est-ce qu'il peut cesser de m'aimer? Bien sûr, nous savons pas. Nous savons que Dieu ne cessera jamais de nous aimer. Et à travers ces chapitres, Paul donne une réponse à celui-là. Il balaye l'histoire du peuple juif et considère son avenir. Au chapitre 9, Dieu est souverain. Il est libre de choisir qui il va aimer parmi des personnes dont aucune finalement n'est aimable. Aucune n'est aimable, mais Dieu choisit d'aimer. Au chapitre 10, il souligne la responsabilité de l'homme, la responsabilité également d'annoncer l'évangile. Et au chapitre 11, il précise aux chrétiens qui sont non-juifs, à nous, que Dieu n'a pas rejeté le peuple juif. C'est une vérité que le christianisme institutionnel a malheureusement oubliée. C'est vraiment été un drame dans l'histoire du christianisme. Et Dieu n'a pas rejeté son peuple. Il a un plan et un projet pour nous. Les chrétiens sont rentrés, ont été greffés dans l'olivier du judaïsme, des patriarches, et un jour, l'ensemble du peuple, la plénitude du peuple, dit la parole, bénéficieront de la même grâce que ceux que nous avons, nous aussi, bénéficié. Les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables. Ils sont irrévocables. Et nous en avons la démonstration par l'histoire du peuple juif jusqu'à présent. Jusqu'à présent, ils sont là. vous rappeler cette prière. Alors, loué soit Dieu, pour qui nous sommes, c'est les derniers versets qui précèdent notre texte. Quelle profondeur, la richesse, la sagesse et la connaissance de Dieu. Que ses jugements sont insondables et ses voies impénétrables. Qui a connu la pensée du Seigneur? Ou qui a été son conseiller? Qui lui a donné le premier pour être payé en retour? C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. La louange anglo-saxonne, et ça, ce sont des Strasbourgeois qui chantent. Voilà, une chorale de Strasbourg. Et maintenant, que faisons-nous? Et maintenant, quelle suite? Si je reconnais dans ce pèlerin qui avance vers le ciel, si je me reconnais moi, si je suis chrétien aujourd'hui, si j'ai compris que j'étais pécheur, perdu loin de Dieu, si j'ai le désir de m'éloigner du péché, de me tourner vers Dieu, si je me suis converti, si j'ai demandé pardon à Dieu pour mes fautes, si j'ai cru dans le sacrifice expiatoire de Christ. Il a payé pour moi la croix du calvaire, lui le juste, pour moi l'injuste. Gratuitement, je suis déclaré juste par la foi en Jésus-Christ. J'ai reçu le Saint-Esprit, la joie, la paix, la grâce de Dieu. J'ai un vif désir dans mon cœur de quitter l'empire du péché. Je suis définitivement mort à ce monde et je vis maintenant pour Dieu. Et j'ai l'assurance de mon salut en Jésus. Rien ne me séparera de lui. J'ai compris que Dieu m'a choisi. Il m'a inclus dans son peuple, l'Israël de Dieu, au milieu des quelques Juifs qui ont cru en Jésus. Dieu ne cessera jamais de m'aimer, parce qu'il n'a jamais cessé d'aimer le peuple juif un jour. Ils se tourneront vers leur Messie. Maintenant donc que je suis chrétien, comment vivre une vie de justifié par la foi dans la pratique? Comment rendre un culte à Dieu et lui être agréable? Les réponses à ces questions sont dans notre texte qui démarre chapitre 12 et qui vont aller jusqu'au chapitre 15, verset 13. Et donc, c'est comme une petite série là, qu'on va juste commencer. Comment le juste mène, comment le juste peut-il mener une vie agréable à Dieu aujourd'hui? Et aujourd'hui, on va voir l'offrande qui est agréable à Dieu. L'offrande qui est agréable à Dieu avec notre verset. Romains 12, chapitre 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Je vous exhorte donc, exhorter ou encourager, c'est l'idée de s'approcher de quelqu'un pour lui parler. Ce n'est pas un ordre, c'est un encouragement, une exhortation, c'est un appel que Paul lance et que la parole de Dieu nous lance à travers lui. Je vous exhorte donc, qui nous renvoie à notre verset précédent, c'est de lui, de Dieu, par lui et pour lui que sont toutes choses. On doit tout à Dieu jusqu'à la respiration et au souffle qui nous anime chaque minute. Je vous exhorte donc par les compassions de Dieu, les compassions, la miséricorde de Dieu. On a cette expression en français, du moins elle était utilisée avant lorsqu'on voulait insister auprès de quelqu'un, pour l'amour de Dieu, faites ceci ou cela. C'était la façon la plus forte, c'était de lui dire pour l'amour de Dieu. Maintenant, notre société est sécularisée. Si vous dites ça à quelqu'un, il va vous ouvrir des grands yeux comme ça. Mais l'idée est là. On ne veut pas seulement faire appel à la raison, mais on veut faire appel aussi aux émotions, que tout notre être soit engagé à cet appel, soit appelé, et notre volonté et nos sentiments, nos émotions, tout ensemble. Je vous exhorte donc par les compassions de Dieu à offrir vos corps. Le mot offrir ici, c'est le même que se présenter, se livrer à quelqu'un. Et c'est dans le grec un terme de grammaire qui n'existe pas en français, c'est un aoriste qui signifie une fois pour toutes, offrir nos corps à Dieu. Et on va voir pourquoi dans la suite du texte. À offrir vos corps, le Fils de Dieu, le Seigneur, par l'Esprit Saint, s'est incarné, est devenu un vrai homme, et il a lui donné son corps pour nous à la croix, à offrir notre corps comme une offrande vivante, sainte, agréable à Dieu. offrir nos corps, c'est là où ça devient compliqué. C'est pas compliqué. Mais c'est là où ça devient sain. Offrir nos corps comme une offrande vivante, sainte, agréable à Dieu. Et une offrande, c'est un sacrifice. C'est un sacrifice. Ce mot était très clair pour les lecteurs de Paul de l'époque, mais pour nous beaucoup moins. Mais pour eux, c'était très clair. Parce que depuis toujours, les hommes offraient des sacrifices d'animaux à Dieu. Dans le paganisme, ça existait depuis le commencement et également, ça existait également pour tous les hommes qui marchaient avec Dieu. Tout le monde offrait des sacrifices d'animaux. Dans le judaïsme, c'était la façon habituelle de rendre un culte à Dieu, le Dieu d'Israël. Les Juifs faisaient depuis Rome un pèlerinage, depuis tous les lieux de l'Empire. Ils faisaient un pèlerinage à Jérusalem et là, ils offraient leur sacrifice à Dieu, leur agneau personnel. Ils l'offraient en holocauste. Ils l'offraient en sacrifice d'action de grâce. Ils l'offraient pour le pardon de leurs fautes. Une offrande, c'était un sacrifice d'animaux. Et quand les lecteurs de Paul lisaient ça, ils comprenaient de quoi il s'agissait. Qu'est-ce que c'était un sacrifice? Nous, on a besoin de faire un voyage un peu culturel là, pour nous rendre compte de ce dont l'apôtre Paul parle. On va lire Lévitique chapitre 1, verset 1 à 10, le livre de Lévitique, hein, il est appelé le manuel du sacrificateur, du prêtre, parce que tout est détaillé sur la façon de rendre un culte à l'Éternel dans l'Ancienne Alliance. Et nous lisons ceci. Lévitique 1, on va lire juste ce qui concerne l'Holocauste et juste une partie du chapitre 1. Lévitique chapitre 1, verset 1. L'Éternel appela Moïse de la tente d'assignation. Il lui parla et dit, « Parle aux enfants d'Israël et dis-leur, lorsque quelqu'un d'entre vous fera une offrande à l'Éternel, il offrira du bétail, du gros ou du menu bétail. Si son offrande est un holocauste de gros bétail, il offrira un mâle sans défaut. Il l'offrira à l'entrée de la tente d'assignation devant l'Éternel pour obtenir sa faveur. Il posera sa main sur la tête de l'holocauste qui sera agréé de l'Éternel pour lui servir d'expiation. Il égorgera le veau devant l'Éternel et les sacrificateurs, fils d'Aaron, offriront le sang et le répandront tout autour sur l'autel qui est à l'entrée de la tente d'assignation. Il dépouillera l'holocauste et le coupera par morceaux. Les fils du sacrificateur Aaron mettront du feu sur l'autel et arrangeront du bois sur le feu. Les sacrificateurs fils d'Aaron poseront les morceaux, la tête, la graisse sur le bois mis au feu sur l'autel. Il lavera avec de l'eau les entrailles, les jambes et le sacrificateur brûlera le tout sur l'autel. C'est un holocauste, un sacrifice consumé par le feu d'une agréable odeur à l'Éternel. Je vous exhorte donc par la compassion de Dieu à offrir vos corps comme une offrande, un sacrifice vivant. Il y a une différence fondamentale entre l'ancienne et la nouvelle alliance. Dans l'ancienne alliance, on offrait un animal qui était mis à mort. Mais là, il s'agit d'une offrande vivante qui est notre corps. On offrait régulièrement des animaux à Dieu. On posait sa main sur l'animal qui était ensuite mis à mort. Et dans la Nouvelle Alliance, on offre une fois pour toutes, son propre corps. Et on offre un sacrifice vivant qui n'est pas mort parce que Jésus-Christ est vivant. Et l'offrande qui a été mise à mort, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui seul, l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde. Et en lui, nous sommes morts et nous sommes ressuscités. On offre un sacrifice vivant. Une fois pour toutes, il n'est pas concevable d'offrir nos corps plusieurs fois, comme il n'était pas possible d'offrir le même agneau plusieurs fois. Une offrande vivante, une offrande sainte. L'animal, on l'a lu, devait être sans défaut. Jésus-Christ seul est sans défaut. Et il s'est offert un sacrifice pour que nous recevions sa pureté, pour que nous soyons sanctifiés et pour que notre corps puisse être agréé par Dieu. Nous sommes appelés saints. Une offrande agréable à Dieu. Pourquoi les holocaustes de l'ancienne alliance, comme on avait dit, étaient agréables à Dieu? Je n'ai pas de réponse à cette question. Peut-être que cela préfigurait le sacrifice. Enfin, c'est sûr que cela préfigurait le sacrifice de Jésus-Christ. Mais cette offrande parfaite qui allait nous sauver à cause de l'œuvre qu'elle allait accomplir, nous sauver, nous, était d'une odeur agréable à Dieu. Et le sacrifice de Jésus-Christ, le sacrifice de son propre Fils, de Dieu le Père qui sacrifie son propre Fils, est agréable en ce qu'il va permettre de nous sauver, nous, pécheurs. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie avec Dieu pour toujours, la vie éternelle. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable, ce qui sera votre culte raisonnable, c'est un peu comme ça, ce qui sera de votre part, c'est pas dans le texte, mais c'est votre culte raisonnable. Le mot culte en grec, c'est le même racine du mot que servir. Le culte, c'est le service de Dieu. Et raisonnable, c'est le mot logikos là qu'on trouve dans le texte. Je décortique un peu ce matin, la phrase est brève, ça vaut le coup de le faire. Logikos, ça a donné logique. Hein, un culte qui est logique, qui est logique, c'est ça vient de logos, de la parole. Et donc vous trouverez des traductions qui disent sera de votre part un culte conforme à la parole de Dieu. Alors, c'est un verset qu'on peut apprendre par cœur. Je vous exhorte, et qui vient à l'apprendre par cœur, je vous exhorte, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Un culte raisonnable. Pourquoi se donner à Dieu ? Le fait que notre culture soit éloignée des sacrifices d'animaux ne change rien à la façon dont nous devons rendre un culte à Dieu. Rien n'a changé depuis le premier siècle. Et aujourd'hui, pour plaire à Dieu, il faut offrir notre corps. Cela est agréable à Dieu et aussi parce que Dieu a fait cela par Jésus-Christ. Également pour nous, il a offert le corps de son Fils Jésus. Il y a une autre raison qui est développée, on l'a vu brièvement dans la partie de l'empire du péché au chapitre 6, dans le sujet de quitter l'empire du péché. Je lis dans la seconde 21 quelques versets de l'épître aux Romains chapitre 6, je vais lire 12, 13, 16 et 19, juste un extrait, on ne va pas pouvoir développer ça ce matin ensemble, on reviendra mercredi lors de l'étude biblique. Et si vous ne pouvez pas être là mercredi et que ce sujet vous intéresse, vous pouvez faire l'étude, la méditation pour vous-même. Vous pouvez également retrouver sur le site de l'EPEF l'enregistrement du message de l'époque. Je lis simplement que le péché ne règne plus dans vos corps mortels pour vous soumettre à lui par ses désirs. Ne mettez plus vos membres au service du péché comme des instruments de l'injustice, au contraire. Livrez-vous vous-même à Dieu comme des morts, revenus à la vie, et mettez vos membres à son service comme des instruments de la justice. Ne savez-vous pas que si vous livrez à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave du maître à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. De même que vous avez mis vos membres comme esclaves au service de l'impureté et de l'injustice pour arriver à plus d'injustice, de même, maintenant, mettez vos membres comme esclaves au service de la justice pour progresser dans la sainteté. Si on veut quitter l'empire du péché, il faut donner notre corps à Dieu. L'homme a été créé serviteur. Et si on nous dit non, l'homme a été créé libre, c'est pas vrai. L'homme a été créé serviteur. Et soit il sert Dieu, soit il sert le mal. Mais de toute façon, il sert. Il est foncièrement un serviteur. Et si nous ne voulons plus servir le mal, alors nous devons servir Dieu. Et pour cela, nous lui offrons nos membres, nous lui offrons notre cœur. Nous voulons nous débarrasser du péché dans notre vie, servons Dieu en faisant ce qui lui est agréable. Occupons notre corps à pratiquer le bien. Cela est agréable à Dieu et c'est la seule façon de vivre la vie chrétienne. Donc, mercredi, on pourra approfondir ce passage, cet enseignement de Paul. Pourquoi se donner à Dieu? Comment se donner à Dieu? C'est bien sûr une décision qui appartient à chacun. Chacun dispose de son propre corps. On ne peut pas le faire, on ne peut pas obliger personne. Et l'apôtre Paul ne le fait pas. Il lance un appel. Présentons à Dieu notre corps et disons-lui, je te donne mon corps. Y a-t-il quelque chose de spécial à faire? Est-ce que nous devons nous inscrire dans un institut biblique? Je ne pense pas. Est-ce que nous devons quitter notre travail et, comme l'apôtre Jean, vivre de sauterelles et de miel sauvage dans le désert? Non. Est-ce que nous devons vendre notre maison pour donner l'argent aux pauvres? Non. Est-ce que nous devons nous arrêter de fumer? Peut-être. En tout cas, poursuivons toutes nos activités avec cette pensée, mon corps appartient à Dieu. Je lui ai donné comme une offrande, quand on se lève le matin jusqu'à ce qu'on se couche le soir, mon corps appartient à Dieu. Je lui ai donné comme une offrande. Quelle libération, quel soulagement, quelle vie nouvelle s'ouvre à nous avec cette perspective devant nous. Comment se donner à Dieu? Tout simplement en le présentant notre corps devant lui. Les applications, bien sûr, accepter le magnifique salut par la foi, c'est la porte d'entrée dans la vie chrétienne, hein? Le salut, hein? Croire dans le sacrifice de Jésus, croire dans sa résurrection, recevoir son pardon, c'est le commencement. Le prendre comme Seigneur de notre vie, c'est le commencement. Et c'est peut-être pour nous, s'il y a quelqu'un qui n'a pas fait encore le pas de la foi, de le faire. Accepter le magnifique salut par la foi. Présenter nos corps à Dieu aussi maintenant, on peut le faire. On va avoir un beau chant tout à l'heure qui nous y encourage, on va le chanter ensemble. Nous avons peut-être cessé notre service à Dieu pour servir quelques idoles de notre propre fabrication. Vous connaissez l'expression « donner, c'est donner, reprendre, c'est voler ». Alors, si on a dérobé notre corps au service de Dieu, il faut le lui rendre de nouveau, le lui restituer, c'est de faire une restitution. Et on a, je crois, dans la vie chrétienne, souvent besoin de restituer, de revenir, de nous rappeler « bah oui, hein ». Je suis enfant de Dieu. J'ai donné ma vie, j'ai donné mon corps, j'ai donné mon âme au Seigneur et je suis content. Je vois une troisième application, une motivation renouvelée pour le culte du dimanche, pour venir au culte le dimanche, une motivation renouvelée. Nous nous réunissons le dimanche pour le culte, nous nous réunissons pour service à Dieu, pour le service de Dieu. Est-ce qu'on va recevoir quelque chose de lui le dimanche matin? Peut-être. Peut-être on va recevoir quelque chose de Dieu, peut-être pas. Mais nous ne sommes pas là premièrement pour recevoir. Nous sommes premièrement là pour offrir et pour donner à Dieu. C'est René Skin avait l'habitude de dire, c'est le fondateur de cette église, quand on reçoit quelque chose au culte le matin, c'est un plus. C'est simplement un plus. Nous venons au culte pour nous présenter devant Dieu comme un serviteur se tient à l'écoute de son maître, comme un adorateur le fait pour lui offrir, pour lui apporter nos louanges, notre reconnaissance et lui témoigner ensemble notre grand amour pour lui. Je n'ajouterai pas plus. Je vous laisse maintenant avec notre verset. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir nos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Et je vous invite à chercher dans le recueil le 634, tu es venu jusqu'à nous. Le 634.